Wikipédia, Filiki-Eutria, la Filiki-Eutria, ou Société amicale, ou Société des amis, ou Société des compagnons, ou aussi Hétérie des amis fut créée en 1814 à Odessa. L'Hétérie était une société secrète dont le but était l'indépendance de la Grèce soumise à l'occupation ottomane. Elle fut autant une manifestation du sentiment national grec que la cause qui transforma ce sentiment national en insurrection. Elle connut des débuts difficiles, tant au point de vue du recrutement qu'au plan financier. Si elle ne réussit pas à convaincre Ioannis Kapodistrias de prendre ses têtes, Alexandri Psylati accepta en avril 1820. Elle joua un rôle fondamental dans la préparation et le déroulement de la guerre d'indépendance grecque. Ce fut à l'initiative de la Filiki-Eutria que le soulèvement se déclencha dans les provinces danubiennes et dans le Péloponnèse. Le 1er janvier 1822, l'indépendance grecque fut proclamée par l'Assemblée nationale réunie à Épidaure. 15 jours plus tard, le drapeau de l'Hétérie était remplacé par le drapeau grec bleu et blanc. La société était de fait dissoute. Emblème de la Filiki-Euter, à point les drapeaux portent l'abréviation de la devise de la société, qui est aussi aujourd'hui la devise de la Grèce. La liberté ou la mort. Origine et influence. En Grèce, les échos de la Révolution française soulevèrent l'enthousiasme des intellectuels et éveillèrent le désir d'indépendance. Le poète Riga, d'origine paysanne, multipliait les ouvrages littéraires et politiques. À la fin de ses études, Riga entra au service des phanariotes, qui gouvernaient les provinces danubiennes. Puis il travailla pour un noble autrichien et vécut à Vienne où il rencontra la communauté grecque. 1. Centurio, ou Chant de guerre, de 1797, contient un serment contre la tyrannie et un appel à toutes les populations du Balkan à lutter contre celle-ci. 2. Il rédigea aussi un projet constitutionnel pour la Grèce et une confédération balkanique. Franc-maçon, il eut l'idée de créer une société secrète œuvrant pour l'indépendance grecque. Il comptait sur l'intervention de Bonaparte après ses victoires en Italie. Il tenta même de le contacter à Venise en 1797, juste avant d'être arrêté et exécuté en 1798. Il aurait créé une tria à Vienne dans les années 1790. En 1809, des Grecs de Paris organisèrent une société d'entraide pour l'ensemble des Grecs de France. Le signe d'appartenance était un anneau d'or gravé des symboles de l'association. Atan Iotakalov, fondateur de la Filiki-Eutria, en fut membre. 4. Une autre société disposait d'un anneau, comme signe d'appartenance, l'Hétérie de Philomus, dont les buts étaient la conservation des antiquités de la Grèce et l'éducation intellectuelle et morale de la population. Cette association des amis des arts, comme elle l'était parfois aussi connue, eut un rapide développement en Grèce et à l'étranger. Elle recruta même parmi les participants au congrès de Vienne et le tsar Alexandre Ier fut même un de ses plus généreux donateurs, d'où l'ambiguïté entretenue ensuite par la Filiki-Eutria quant au soutien du souverain russe. Les membres de l'Hétérie des Philomuses portaient un anneau d'or et les donateurs un anneau d'airain. En 1813, Emmanuel Xetos, un autre fondateur de la société, fut initié dans la franc-maçonnerie lors d'un séjour à Leucade. Cette initiation lui donna l'idée de créer une société secrète qui en serait inspirée afin de réunir tous les capitaniois des armatoles et les autres leaders de toutes les classes de Grecs, en Grèce ou ailleurs, en vue, à terme, de libérer la patrie. Elle fut fondée à Odessa par Nikolaos Koufa, Atan Iotakalov et Emmanuel Xetos le 14 septembre, Julien, 1814. Organisation, hiérarchie et initiation. Le serment des membres de L'Hétérie. Traduction du serment. Je jure, au nom de la vérité et de la justice, l'être suprême étant mon témoin, de préserver, quitte à sacrifier ma propre vie et d'endurer les pires souffrances, le secret qui va m'être révélé, et je jure de répondre la vérité à toutes les questions qui vont m'être posées. Monument à Kolonaki. Le serment des membres de l'Hétérie. Traduction du serment. Je jure, au nom de la vérité et de la justice, l'être suprême étant mon témoin, de préserver, quitte à sacrifier ma propre vie et d'endurer les pires souffrances, le secret qui va m'être révélé, et je jure de répondre la vérité à toutes les questions qui vont m'être posées. Monument à Kolonaki. Selon les sources, les membres étaient répartis en 3, 5 ou 7 classes. 1. Les frères pour les membres illettrés. 2. Les associés ou recommandés ou agréés. Pour les lettrés, 3. Les prêtres, qui pouvaient recruter des membres aux deux niveaux inférieurs, 4. Les bergers ou pasteurs, souvent les très riches membres. 5. Les archipasteurs. 6. Les initiés. 7. Les stratèges ou chefs des initiés. 5. Le directoire invisible. Au départ, seuls les trois fondateurs, Nikolaos Koufa, Atan Yotakalov et Emmanuel Xatos, constituaient ce directoire invisible. D'autres y entrèrent ensuite. Le principal avantage de l'invisibilité était d'entretenir la rumeur quant aux membres. Ainsi, il pouvait être suggéré que le tsar Alexandre Ier de Russie lui-même était le chef de l'hétérie. 4. Seuls les initiés et les stratèges avaient droit à un commandement militaire. L'initiation était inspirée des rituels maçonniques. Chaque nouveau membre devait prêter serment sur la foi orthodoxe des icônes sacrées, mais le prêtre, hétériste, officiant expliquait qu'il recevait le nouveau membre en vertu de la puissance que lui avaient livrée les grands prêtres des mystères d'Éleusis. 14. Une autre forme d'initiation aurait été inspirée de ce qui se faisait chez les Albanais. Deux hommes qui désiraient devenir frères échangeaient leurs armes autour d'un autel, se serraient les mains, disaient « ta vie est ma vie, et ton âme est mon âme » et juraient de protéger la famille et la maison de l'autre pendant son absence. Yanis Makrianis raconte dans ses mémoires son initiation par un pope, trésorier de l'hétérie, en 1819 ou 1820. Il semble qu'elle ait seulement été un serment sur des icônes jurant de ne rien révéler ni de la société, ni des signes de reconnaissance des membres. Si on ne demandait aux frères qu'un fusil et 50 cartouches, l'agréé devait porter un signe distinctif, une croix au-dessus d'un croissant. On lui tenait ce discours. Combat pour la foi et la patrie. Engage-toi à haïr, à poursuivre et à exterminer les ennemis de la religion nationale et de ta patrie. Le but de la société, la libération de la Grèce, n'était révélé qu'à partir du rang de prêtre, mais tous les membres savaient qu'ils devaient combattre les Turcs. Le stratège recevait une épée et on lui disait « La patrie te la donne pour que tu t'en serves pour elle. » 11. Les membres de la classe des prêtres étaient très nombreux. Ce grade était un des plus intéressants. Il donnait le droit de recruter et de conférer à d'autres membres le grade de prêtre, mais la cotisation n'était pas aussi élevée ni si régulière que dans les grades supérieurs. Une organisation secrétaire, le sort de Riga avait servi de leçon. Le secret absolu devint la règle de fonctionnement. Tous les documents émis par l'hétérie étaient codés avec différents codes. Les diplômes d'appartenance étaient codés avec une simple substitution. 2 remplaçaient la lettre. 8 remplaçaient la lettre. 9 remplaçaient, etc. D'autres codes étaient plus complexes et certains n'ont pas encore été déchiffrés. 4. Les membres n'étaient connus que par des numéros. 2 d'orocoloque, autre Eumi était le 118. Ou par un surnom, le bon chasseur, le noble, le paresseux, etc. Les mots utiles à la préparation de l'insurrection étaient aussi dissimulés. Éléphant, pour gros navire, cheval, pour petit navire, danseur, pour bande de palicares, adultère, pour assassinat, les hommes durs, pour les anglais, les accroupis, pour les turcs et les vaillants, pour les grecs, etc. Financement, l'adhésion à l'hétérie impliquait une obligation de participation au financement. Pour les plus pauvres, une petite somme était demandée lors de l'initiation, accompagnée d'une lettre au cas où les autorités ottomanes s'en emparaient, expliquant que la somme était destinée à un ami depuis longtemps perdu de vue et dans le besoin. Pour les plus riches, la lettre expliquait leur attachement à leur village natal, dont ils étaient nostalgiques depuis leur exil européen, et leur volonté de participer au financement de l'école du village. 17. En raison du faible recrutement les premières années, le financement fut lui aussi réduit. 18. De plus, tous les membres de l'hétérie, jusqu'au moindre frère, devaient avoir à leur disposition un fusil et 50 cartouches. Les sommes payées lors de l'adhésion variaient en fonction des fortunes. Alexandro Mavrocordato, d'origine Fanariote Versailles, 000 Florin en octobre 1816, Panayioti Sekiri Donadis, 000 Piastre, ou Grossia, 19, lors de son initiation en mai 1818, avant de faire durant l'été une nouvelle donation. D'autres membres, comme Enspeliade, septembre 1816, ou CH. Perinvo, mars 1817, verseront seulement un florin, et Yoriodikeo di Papa Flessa, juin 1818, 10 Grossia. Membres, l'étude de quelques listes, mémoires et documents, permet de retracer l'évolution du recrutement et de faire des statistiques, pas toujours complète. Mais elle montre les premières difficultés. En 1816, 20 membres et en 1817, 42 membres, 18. À l'été 1818, le nombre de membres n'était que de 51. 311 nouveaux membres furent initiés entre juin 1818 et juin 1819, mais seulement 90, dans la seconde moitié de 1819. Les statistiques donnent aussi des renseignements sur le profil des membres. En 1819, la Filiki Eutria avait 452 membres, dont 153 commerçants et armateurs, 60 notables, 36 soldats, 24 ecclésiastiques, 23 membres d'une administration, 22 enseignants et étudiants, 16 membres de professions libérales variées, 10 docteurs, 4 avocats et 104 de professions inconnues. Ainsi, 44% appartenaient à la classe marchande et 41% à la bureaucratie ou l'intelligentsia. 36 de ses membres venaient de Russie, 25 des provinces danubiennes, 62 de Constantinople, 125 du Péloponnèse, 25 des îles de l'Égée et 41 des îles Ioniennes, où les adhésions augmentèrent après une visite de Capodistria. 57 venaient de divers autres endroits, Italie, Égypte, Syrie, etc. Et l'origine de 81 n'est pas connue. Les membres furent dans les premières années de jeunes hommes, dont la proportion diminua. En 1818, plus de 70% avaient moins de 40 ans. En 1819, ils représentaient moins de la moitié. Au début de l'insurrection, les Théries comptaient 1,093 membres. Les trois quarts n'habitaient pas en Grèce. La moitié résidait en Russie, ainsi qu'en Moldavie et Valachie. Plus de la moitié avait une activité commerciale, marchands, employés de commerce et capitaines de navires. Les intellectuels, instituteurs, docteurs, etc. et les « primats », propriétaires terriens, ne représentaient ensemble que 10% des membres, tout comme les militaires et les membres du clergé, qui ensemble dépassaient à peine aussi les 10%. Il n'y avait que 6 paysans. Le patriarche de Constantinople, Grigorio, fut approché lors d'une visite qu'il fit au mont Athos, 23. Il refusa, mais il aurait fourni en juin 1819 une contribution de 45,000 piastres pour « construire une école dans le Magne ». Que la construction ait été réelle, ou une contribution à l'Étherie, elle servit de preuve aux autorités ottomanes. Cette possible implication dans l'Étherie fut une des accusations portées contre lui en avril 1821 avant son exécution. Histoire, des débuts difficiles. Elle connut des débuts laborieux. En 1816, 20 nouveaux membres seulement avaient été recrutés et en 1817, le chiffre n'atteignait encore que 42. Quelques membres en Italie, un à Vienne mais aucun à Londres, Paris, Marseille ou Amsterdam, grande ville de la diaspora marchande grecque. En fait, les fondateurs ne faisaient pas vraiment partie de la classe marchande grecque prospère. Ils n'étaient pas assez riches pour disposer des réseaux et de la considération de la diaspora. Les premiers recrutés ne l'étaient pas plus. Ioannis Capodistria les qualifia même de « misérables employés de commerce ». Dès septembre 1814, les trois fondateurs se séparèrent. Xatos se rendit à Constantinople. Skoufa et Takalov partirent pour Moscou. Ils y recrutèrent Georgios Sekeri dès octobre. Son frère Panayioti fut ensuite un des principaux contributeurs. Skoufa retourna ensuite à Odessa, où il initia quatre capitaines grecs de l'armée russe. Ils avaient servi lors de l'occupation russe des îles Ioniennes. Ils étaient en route pour Saint-Pétersbourg, pour se faire payer leurs arriérés de solde, en usant de l'influence de Capodistria. L'un de ces quatre capitaines, Anagnostara, fut un des plus efficaces recruteurs de l'Étherie. Il initia à lui seul 49 nouveaux membres avant le début de la guerre d'indépendance. Skoufa recruta aussi alors Nicolao Galati, originaire d'Ithaque et qui prétendait être comte et avoir l'oreille de Capodistria. Un changement de stratégie. Durant l'hiver 1817 à 1818, les trois fondateurs réunis à Constantinople pensèrent à dissoudre l'association. Finalement, ils s'accordèrent pour une rationalisation de l'activité. Les trois fondateurs ne s'étaient pratiquement jamais trouvés ensemble dans le même pays depuis la fondation. Ils s'étaient aussi dispersés dans tous les pays d'Europe. Ils décidèrent d'installer le quartier général de l'Étherie à Constantinople, capitale de l'Empire qu'ils désiraient abattre, et surtout où la police politique était moins efficace qu'en Russie ou dans les États autrichiens. Il fut surtout résolu de concentrer les activités et le recrutement en Grèce même. Les quatre capitaines initiés à Odessa furent mis à contribution. Anagnostara fut envoyé à Hydra, Spes est dans le Péloponnèse, un second dans le nord-est de la Grèce et les deux derniers dans l'Allemagne, 26. La rationalisation passa aussi par la création d'éphories dans les principales villes d'Europe centrale et orientale. Chaque éphorie disposait de ses trésoreries. Eres, les commerçants grecs membres les plus riches de la ville, et correspondaient avec le quartier général à Constantinople qui se chargeait de les diriger et de les coordonner entre elles. Ioannina, Bucarest, Trieste, Jassy, Moscou, Pes devinrent centres d'éphorie ainsi que Smyrne, Chio, Samo, Kalamata ou Missolonghi et d'autres. Les problèmes financiers furent résolus par deux donations de Panayiotis et Kéry, 35,000 piastres en tout. Il promit ensuite d'engager l'intégralité de sa fortune au service de la cause. Il fut nommé membre du directoire invisible. Le Tria fut cependant frappé le 31 juillet, Julien, 1818 par la mort d'un de ses fondateurs, Nikolaos Koufa. L'échec du recrutement de Ioannis Kapodistri à l'étape suivante fut de trouver un chef charismatique dont on pourrait ouvertement se réclamer et qui apporterait le soutien d'une grande nation. Le choix se porta vers Ioannis Kapodistria. Xatos fut envoyé à Saint-Pétersbourg pour tenter de le convaincre. Issu d'une riche famille corphiote, rédacteur de la Constitution de la République autonome de cette île et membre de son gouvernement, il s'était fait remarquer lors de l'occupation russe de l'archipel et était entré dans la diplomatie russe jusqu'à devenir ministre associé avec Nesselrod. Cependant, dès 1817, Nicolaou Galati avait approché Kapodistria à Saint-Pétersbourg et lui avait proposé de prendre la tête de l'Éthérie. Il avait essuyé un refus catégorique. Galati s'était en effet déjà déconsidéré dans la capitale russe. Il y menait grand train, grâce à de nombreux emprunts qu'il ne remboursait pas. Il fréquentait des conspirateurs connus de tous. Il affirmait avoir à sa disposition un millier d'hommes et il se disait prêt, dès qu'il en recevrait l'ordre, à assassiner le tsar. Cela ne pouvait jouer en sa faveur, auprès d'un ministre de l'empereur. Galati se rendit alors dans les provinces danubiennes, où il recruta de nombreux membres. En 1818, il arriva à Constantinople, où il tenta d'extorquer de l'argent aux trois fondateurs en menaçant de les dénoncer. Il fut convaincu d'aller recruter de nouveaux membres de l'Éthérie dans le Magne. Takalov l'accompagna. Ils s'arrêtèrent près d'Hermione en Argolide. Galati fut alors victime d'un « adultère », le premier de l'histoire de l'Éther. Xatos fut encore précédé en 1819 par Camarino, envoyé par le magnate Ptrobem Avromichali. Camarino était porteur d'une lettre demandant à Kapodistria de participer au financement d'une école dans le Magne et d'un message oral lui demandant de prendre la tête de l'Éthérie. Le refus de Kapodistria choqua tellement Camarino qu'il ne put cesser d'en parler autour de lui lorsqu'il rejoignit Constantinople pour informer le quartier général. Il dut trop parler puisqu'il fut lui aussi victime d'un adultère. Les morts brutales et rapides de Galati et Camarino pourraient aussi s'expliquer par le fait qu'ils en auraient trop su, principalement la non-implication de Kapodistria, alors que la rumeur le disait membre du directoire invisible et apportant le soutien de la puissance russe. Emmanuel Xatos avait potentiellement plus de poids. Il était un des fondateurs de l'Eutria qu'il dirigeait en tant que membre du directoire invisible. Il avait aussi l'avantage, à 48 ans, de la maturité. Il disposait aussi d'une lettre d'introduction écrite par un ami d'enfance de Kapodistria, Antimogasi, alors directeur d'école dans le Pélion. En fait, l'idée était, si Kapodistria refusait à nouveau, de ne pas se l'aliéner par la personnalité de l'émissaire, afin qu'il suggère lui-même une solution alternative. Xatos arriva à Saint-Pétersbourg en janvier 1820. Il joua immédiatement son va tout en révélant au ministre du Tsar tous les rouages de l'organisation. Kapodistria refusa à nouveau, principalement parce qu'il était ministre du Tsar, 32. Une seconde rencontre fut organisée par le secrétaire particulier de Kapodistria, un membre de l'Éthérie. Ce fut un nouveau et définitif refus le 15 janvier, Julien. Il aurait cependant financé quelques écoles, le soutien puis la trahison d'Ali Pacha. Au début de 1820, dans le Péloponnèse, les principaux membres se réunirent à Tripolisa, alors capitale politique ottomane de la péninsule. Ils désiraient, avant de poursuivre plus avant, être sûrs du soutien, suggéré par le directoire invisible, de la Russie. Ils désignèrent l'un d'entre eux, Ioanni Paparigopoulo, comme émissaire auprès du directoire invisible, puis de la Russie. Ils réclamaient du directoire la création d'une éphorie pour la péninsule, afin de coordonner toutes les actions et d'obliger les membres à obéir à celles-ci, sous peine d'exclusion et afin de disposer d'une trésorerie contrôlée par les membres les plus respectables de la région, qui centraliserait les souscriptions des frères du Péloponnèse et des îles Ioniennes et qui ne dépenserait les sommes qu'après accord du directoire. Il désirait aussi que la correspondance entre le directoire et le Péloponnèse fût sécurisée par les frères d'Hydra, îles plus ou moins autonomes et dont les navires ne craignaient pas l'arraisonnement par les Ottomans. Ali Pacha de Janina avait connu Papa Rigopulo quelques années plus tôt. Il l'invita à passer le voir à Preveza. Le Pacha désirait se rendre totalement indépendant de la souveraineté du sultan. Il se cherchait alors de alliés pour rompre avec la porte, non parfois donnée au gouvernement de l'Empire ottoman. Il se rapprocha donc de l'Éthéri et espérait ainsi gagner l'amitié de la Russie puisque l'Éthéri se disait soutenu par l'Empire tsariste. Sur le conseil de Germanos, Papa Rigopulo aurait mis le Pacha de Janina dans la confidence. En échange, Ali Pacha accorda son soutien à l'Éthéri et insista pour que Papa Rigopulo le fît savoir au directoire et à la Russie. Ali Pacha, dans le même temps, essaya d'assassiner un de ses ennemis politiques, Ismaël Pacha, à Constantinople. L'échec entraîna la rupture entre Ali Pacha et la porte. Le 23 mars 1820, il annonça ouvertement qu'il se faisait le libérateur des Grecs. Papa Rigopulo, depuis Constantinople, lui fit savoir qu'il avait le soutien de l'Éthéri, 35. Le sultan envoya d'abord Ismaël Pacha, puis Kursi Pacha, le gouverneur du Péloponnèse, à la tête de milliers d'hommes pris dans les différentes provinces de l'Empire ottoman, pour écraser son sujet rebelle. Des palicares grecs, commandés par des membres de l'Eutria, comme Odysse et Androusso, combattirent dans le camp d'Ali Pacha. Cette mobilisation des troupes ottomanes en Épire servit aussi les vues de l'Éthéri. Les autres provinces étaient découvertes, les combats pour la libération pourraient y être plus faciles. Cependant, en janvier 1821, Ali Pacha, qui tentait un retour en grâce auprès du sultan, dénonça l'Éthéri et ses membres dans des lettres qui voyaient à Constantinople. Cette trahison fut un des nombreux éléments qui informèrent la porte de ce qui se tramait, obligeant l'Éthéri à accélérer le cours des événements. Malgré tout, les troupes ottomanes restèrent concentrées autour de Ioannina, laissant le champ libre dans les autres provinces. La guerre d'indépendance grecque. Le recrutement d'Alexandre Ypsilanti. Alexandre Ypsilanti était une autre possibilité. Aide de camp du tsar, il avait perdu un bras lors de la bataille de Dresde et ses deux frères étaient déjà membres de l'Éthéri. Xatos fit une approche prudente afin de ne pas essuyer un nouveau refus qui aurait été catastrophique. Lors d'une première rencontre, il évoquait le sort des Grecs sous le joug ottoman. Le lendemain, après avoir laissé à Ypsilanti le temps de réfléchir et de demander ce qu'il pouvait faire pour soulager les maux de ses compatriotes, la question fut posée. Ypsilanti accepta avec enthousiasme. Il prit la tête de la Liniki Eutria et non de la Filiki Eutria, comme l'indique le document qu'il signa le 24 avril, 12 avril Julien, 1820. L'Éthéri des Amis était devenue nationale sous le nom d'Éthéri des Grecs. De là vient parfois l'ambiguïté historiographique faisant d'Ypsilanti seulement le chef de la branche militaire de l'Éthéri. Alexandre Ypsilanti quitta alors le service du tsar sous prétexte d'aller prendre les eaux en Bessarabie. Il racontait, et ses biographes du XIe siècle avec lui, qu'avant de quitter Saint-Pétersbourg, il se serait rendu à Tsarskoï Selo et aurait rencontré le tsar, sur l'épaule duquel il aurait pleuré le sort des Grecs. Le tsar lui aurait alors promis qu'une levée de boucliers se montre en Grèce et mes cosaques iront la secondaire. Papa Rigopulo, toujours chargé par le Péloponnèse de s'assurer du soutien russe, et Ypsilanti, qui commençait à douter de la capacité militaire des éthéristes, se rencontrèrent à Odessa durant l'été 1820. L'aide de camp du tsar aurait alors raconté sa touchante entrevue avec le souverain. Papa Rigopulo aurait quant à lui utilisé un blanc-seing qui lui avait été remis, avec les signatures des membres les plus importants de la péninsule, pour faire une liste détaillée, mais inventée, d'armes, de munitions et de finances propres à rassurer Ypsilanti, qui fut alors fermement convaincu, à tort, que 25,000 hommes étaient déjà en armes dans le Péloponnèse et que Tripolisa, la capitale ottomane, était déjà pratiquement aux mains des Grecs. Le déclenchement de l'insurrection, le 7 octobre, Julien, 1820, une réunion de l'Éthéri eut lieu à Ismaï en Bessarabie, à l'initiative de Papa Flessa. Il fut décidé de précipiter les événements. Un premier plan fut mis au point. Le chef de l'Éthéri, Ypsilanti, devait se rendre dans le Péloponnèse pour y déclencher l'insurrection. Papa Flessa fut envoyé afin de préparer le terrain. Depuis Argos, en décembre, il envoya des lettres aux divers chefs de guerre de la péninsule pour les prévenir de l'imminence du soulèvement. Un autre plan fut suggéré. On proposa à Ypsilanti d'attaquer par les provinces danubiennes de Moldavie et Valachie que les hétéristes réunis à Izmaï considéraient comme une autre Grèce. Les habitants étaient orthodoxes. Les dirigeants, les hospodars au service de la porte, étaient des phanariotes, donc potentiellement favorables à la cause grecque. L'hospodar phanariote de Moldavie, Michel Sousso, était même membre de l'hétérie et favorable au soulèvement. Leur administration, composée de Grecs, était en grande partie déjà affiliée à l'hétérie, tout comme les marchands grecs. De plus, les régions n'étaient plus défendues que par quelques centaines de soldats turcs, les autres ayant été mobilisés contre Ali Pacha de Janina. La région était aussi depuis longtemps convoitée par la Russie. Y déclencher l'insurrection ne pourrait que satisfaire le tsar et gagner son soutien définitif. Enfin, les traités entre empire russe et empire ottoman avaient interdit à la porte d'envoyer des troupes dans les provinces des Anubiennes sans l'accord de Saint-Pétersbourg, 40. Toutes les conditions étaient donc réunies pour en faire un premier objectif. Fin janvier 1821, deux des agents d'Ypsilanti, porteurs de lettres concernant l'insurrection signées de sa main, furent capturés en Serbie et à Thessalonique. Ils risquaient d'être rappelés par le tsar. Il fallait précipiter les événements, 37. Le 16 février, Julien, 1821, à Kishinev, Ypsilanti fixa la date définitive de l'insurrection au 25 mars pour la Grèce même et franchit le print le 22 février, Julien, déclenchant par là même l'insurrection dans les provinces danubiennes de Moldavie et Valachie. L'implication dans les provinces danubiennes. L'hospodar phanariote de Moldavie, Michel Sousso, était membre de l'hétérie et favorable au soulèvement. Cependant, il joua sur les deux tableaux. Il informa son ministre à Constantinople de l'imminence de l'attaque d'Ypsilanti et demanda des instructions. Ainsi, si la révolte échouait, il était couvert. Si elle réussissait, il n'aurait pas à se soucier de suivre les instructions. La veille de l'entrée d'Ypsilanti dans les provinces danubiennes, à Galatz, Vasilio Caravia, principal membre local de l'hétérie, réunit les autres membres et ses fidèles. Il leur annonça que le déclenchement de l'insurrection était proche et qu'il fallait prendre les troupes ottomanes par surprise. Celles-ci furent immédiatement tuées. Ensuite, Caravia, qui vit un moyen de s'enrichir, ordonna aux hétéristes de massacrer les marchands turcs de la ville et de s'emparer de leurs biens. Caravia devint ensuite l'un des deux commandants de bataillon des troupes d'Ypsilanti. De même, lorsque, le 6 mars, Jassy, la capitale de la Moldavie, fut prise, sans combat, Ypsilanti, qui avait grand besoin de fonds pour payer ses troupes, leva un impôt révolutionnaire sur les plus riches citoyens et extorqua d'importantes sommes à un banquier grec de la ville, prétextant qu'il avait dissimulé, peut-être volontairement, des sommes destinées à l'hétérie. Le 14 mars, il quitta Jassy à la tête d'environ 600 hommes, et dont 800 cavaliers, la plupart volontaires hétéristes. La troupe marcha sur la Valachie. En route, les volontaires hétéristes se livrèrent à de nombreux pillages, la troupe avait décidé de vivre sur le pays, qui les déconsidérèrent. Petit à petit, les populations locales se mirent à craindre leur arrivée. En mars, le tsar et Capodistria depuis le congrès de l'Aybak condamnaient le déclenchement de l'insurrection grecque, puis Alexandre Ier chassa Ypsilanti de son armée et lui interdit de remettre le pied sur le territoire russe. Au même moment, le patriarche de Constantinople Grigorio lança un anathème contre les hétéries qui mettaient en danger l'église orthodoxe. Si ces coups qui frappaient le mouvement ne découragèrent pas Ypsilanti, 46, sa cause en souffrit. Il fut abandonné par une partie de ses troupes, ainsi que par Michel Sousso, qui s'enfuit en Russie. Il s'installa le 16 avril à Tergovist avec un peu plus de 600 hommes. Parmi ceux-ci, il avait organisé ses hétéristes les plus jeunes et les plus ardents au sein d'un bataillon sacré vêtu de noir, avec comme emblème une tête de mort et deux os en croix au-dessus de la devise « la liberté ou la mort ». Tudor Vladimirescu avait profité de l'entrée Ypsilanti dans les provinces danubiennes pour déclencher une révolte nationale roumaine, plus ou moins coordonnée avec la tentative grecque. Mais les deux mouvements étaient en concurrence. Certains officiers de Vladimirescu étaient des hétéristes et supportaient mal sa discipline et sa politique. Le lieutenant de Vladimir Escu, un grec hétéristiorga qui Olympioti, dénonça devant les troupes son attitude ambiguë, l'arrêta et l'amena au camp d'Ypsilati, où il fut exécuté. Les troupes de Vladimir Escu furent jointes à celles d'Ypsilati. À la mi-juin, il tenta de remonter vers le nord. Le 13 juin, Julien, les troupes ottomanes avaient repris Jassy. Elles marchèrent à la rencontre d'Ypsilati, 49. La rencontre eut lieu le 19 juin, à Dragazani, dans le județ de Valsa. Là, le bataillon sacré commandé par Iorgachi Olympioti et le plus jeune frère Ypsilati, Niklas, ainsi que 500 cavaliers commandés par Vasilio Caravia, furent taillés en pièces par les Troues, Upotomanes. Vasilio Caravia et ses hommes prirent la fuite. Iorgachi Olympioti réussit à sauver une centaine d'hommes, parmi eux se trouvait tant Ayotakalov, un des fondateurs de la Filiki Eutria, et l'étendard de l'unité. Le reste du bataillon sacré, plus de 400 hommes, périt. La seule bataille rangée d'Ypsilati et de l'Hétérie dans les provinces danubiennes se terminait par un désastre. L'armée se délita. Ypsilati réussit à gagner tant bien que mal l'Empire d'Autriche, où il termina sa vie en prison. En Grèce, Papa Flessa, un ecclésiastique membre de l'Hétérie, avait été envoyé en Grèce d'abord pour préparer le terrain, pour Ypsilati puis pour y préparer l'insurrection. Malgré ses études et sa fonction religieuse, il était un ardent défenseur de l'action. Nous avons besoin d'action. Parler n'est pas travailler. On ne devient pas un homme en restant assis dans son club et en se chauffant près du poêle. Sa propagande révolutionnaire dans le Péloponnèse finit pas d'inquiéter les notables, clergés et propriétaires terriens qui avaient acquis leur fortune et leur pouvoir au service de l'occupant ottoman. C'est prima, proesti ou prokriti en grec, et Kojabashi en turc, n'avaient apporté leur soutien à l'Hétérie que parce qu'ils désiraient remplacer l'autorité ottomane par la leur. Ils eurent alors peur de se faire doubler par des discours et des hommes plus radicaux. Ces primats, menés par Germanos, se réunirent à Patra et tentèrent à l'automne 1820 d'organiser et coordonner les activités de l'Hétérie dans la péninsule. Papa Rigopoulo venait de revenir de sa mission. Il affirma que la création de l'Héphorie avait été approuvée par le directoire invisible et validé par Ypsilati. Un conseil central fut créé. Il était composé de 6 membres avec un président Ioanni Vlasapoulo et 2 trésoriers Ioanni Papadiamantopoulo et Panagioti Avali. Cette désignation firent des mécontents et l'action du conseil central fut presque immédiatement paralysée. Le Péloponnèse fut divisé en 7 gouvernements locaux ou « Héphora ». Le but recherché ne fut pas atteint. Les discours modérés des primats membres de l'Hétérie leur aliénèrent une bonne partie de la population. Papa Flessa disait en effet à qui voulait l'entendre, mais aussi dans ses rapports envoyés à Ypsilati, que des armées étaient stockées par la Russie à Hydra, que des armées étaient stockées partout dans le Péloponnèse par les Grecs, que les Phanariotes étaient prêts à incendier les principaux quartiers et l'arsenal de Constantinople, que d'Ibrikidriotes devaient avec leur aide s'emparer du sultan et l'obliger à accorder l'indépendance à la Grèce. L'Héphorie du Péloponnèse le convoqua le 26 janvier 1821 à Vostiza. Il se défendit en montrant les lettres de créance que lui avait accordées Ypsilati. Le conseil central lui demanda cependant de cesser ses activités, de se retirer chez lui. Une assemblée des membres péloponnésiens de l'Hétérie fut convoquée à Patra afin de désigner un nouveau chargé de pouvoir d'Ypsilati pour la région, ainsi qu'un nouvel émissaire auprès du tsar pour s'assurer à nouveau des intentions de la Russie, 40. Une telle attitude ne pouvait pas satisfaire la population et elle est chef de guerre. Un des signes avant-coureurs de l'insurrection nationale grecque fut l'attaque par Nikolaos Ouliot, un membre de l'Hétérie recruté par Papa Flessa, de messager ottoman près d'Agridi. Ensuite, la plupart des chefs de guerre qui menèrent le conflit étaient membres de la Filiki Eutria, qui avait ainsi joué son rôle de préparation et coordination de l'insurrection. La déclaration d'indépendance et la fin de la Filiki Eutria, le 15 janvier, Julien, 1822, l'Assemblée nationale d'Épidaure, après avoir proclamé l'indépendance, reconnue près de 10 ans, plus tard par les puissances occidentales, abandonna définitivement le drapeau de la Filiki Eutria, pour adopter le bleu et le blanc, 54. C'en était fini de l'Hétérie, qui avait joué son rôle dans le soulèvement national et la libération de la Grèce.